France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors autant vous dire, on a frôlé le drame, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'y revenir, de peur de remuer une nouvelle fois le couteau dans la plaie, mais il y a deux jours, tombait cette terrible information, les bars russes pourraient bientôt être à court de bière. Voilà, alors en pleine Coupe du Monde, autant dire que le chaos international s'annonçait. Et finalement, on nous annonce aujourd'hui que non, il y aura bien des bières pour la Coupe du Monde. La pénurie de CO2 en cause de ce drame, eh bien, serait en passe d'être réglée. C'est quand on passe à deux doigts du précipice que l'on se sent vivant. On peut dire ça ce soir. Merci la bière, à consommer avec modération, surtout avec du CO2. Et eux, ils lèvent le coude au comptoir de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou. Bonsoir.
Bonsoir.
De l'Express, également Emmanuel Foulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez au groupe belge PS au Parlement européen. Également Audrey Goutard. Bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions. Et le communicant Emery Dodiger. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Et ce soir, on parlera de constitution, ça se réfléchit. De Emmanuel Macron qui plonge dans le grand bain des sondages. Migrants ou la passe européenne. Mais juste avant, on va revenir justement sur cette Coupe du Monde, avec cet épisode, je crois que vous l'avez un tout petit peu entendu depuis 18h, historique dans l'histoire du football, puisque l'Allemagne, tenante du titre et surtout qui n'avait jamais été éliminée au premier tour depuis son retour dans cette compétition en 1954, a été éliminée 2-0 contre la Corée du Sud. C'est alors pour faire vraiment dans le cliché, je vais dire c'est un vrai coup de tonnerre qui s'est passé. Emmanuel Foulon, non, mais c'est vrai que là, ça a été surprenant, personne s'y attendait.
Oui, c'est hallucinant, on s'attendait à ce que cette Coupe du Monde ce soit à l'heure de vérité parce qu'il y avait le nouvel arbitrage vidéo, on pensait que ça allait être vraiment focalisé là-dessus. Finalement, toutes les grandes équipes ont loupé leur casting. On a eu l'Argentine qui est passée vraiment par miracle hier, le Brésil peut-être ce soir, et l'Allemagne. Ce qui est le plus hallucinant, c'est que ils avaient fait une Coupe des Confédérations absolument extraordinaire. Ils ont un 23 qui est sûrement meilleur encore que l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, avec plein de jeunes qui ont joué, enfin vraiment un football mais extraordinaire. Et force est de constater que le coach a estimé qu'il fallait pas les faire jouer et en jouant avec une équipe peut-être à moitié motivée parce qu'une moitié d'entre eux avaient déjà gagné les grands trophées. Voilà, ils s'est tiré une balle dans le pied et là, ils sont dans le vol pour leur tour.
Alors, Emery Dodiger, c'est vrai qu'en plus, l'arbitrage vidéo, on l'a vu là à l'œuvre, ouais. Parce que le premier but coréen au départ n'était pas accordé.
Non.
Et il y a eu l'arbitrage vidéo. Pour vous, quand on aime le football, de voir les Allemands tomber, c'est surprenant parce qu'ils sont tenants du titre. Ils avaient tellement bien joué il y a 4 ans. On se souvient du 6-1, je crois, ou 6-2 contre, 7-1, pardon. 7-1, ouais. 7-1 contre le Brésil. Là, c'est quoi, ça arrive, voilà, que des équipes comme ça, favorites, tombent.
En général, j'essaye d'être objectif, mais là, j'ai du mal avec cette Coupe du Monde de football. Donc, je prononcerai juste deux mots, Patrick Battiston, parce que quand même, il y a un moment donné où il faut dire les choses. Et puis, je vais vous reprendre sur une donnée, parce que j'ai fait un peu de...
Je rappelle juste, Patrick Battiston, blessé en 1982 à Séville, face à l'Allemagne.
Agressé, lâchement agressé.
Je ne pourrais pas tenir ce débat.
Et juste, je vais faire un peu de fact-checking sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, l'Allemagne n'a jamais été en dessous des 8 derniers depuis 1938.
D'accord.
Donc c'est encore plus énorme. Ça va être énorme demain dans la presse allemande. Ça doit être énorme ce soir dans toute l'Allemagne. Il doit se passer un truc. Peut-être que demain, ils vont demander quelque chose de très particulier au reste du monde pour s'excuser parce que c'est quand même étonnant.
Non, mais Audrey Goutard, en plus, c'est terrible parce que ça tombe dans un contexte international pour Angela Merkel. Ça va pas politiquement. Il y a un problème avec sur le Dieselgate. En plus, l'Allemagne, au niveau populaire, tombe l'équipe d'Allemagne. Je sais pas si vous avez suivi le match. Si vous avez eu l'occasion de le suivre.
Je n'ai pas suivi le match, mais en vous écoutant, je trouve ça très intéressant. Et puis, on se rend compte quand même à quel point un travail d'équipe, c'est une mayonnaise qui prend ou qui ne prend pas.
Ouais.
Lorsqu'on voit ces deux équipes qui, visiblement, sont les meilleurs, si j'ai bien compris, les Allemands sont vraiment...
C'est à la fin, ils gagnent, en général.
Ils gagnent. Et bien, comme quoi, on peut avoir des personnalités individuelles top, des gens extrêmement bien payés, bien entraînés, etc. Et puis... la mayonnaise ne prend pas. Mmh. Et ça, c'est la nature humaine, et je trouve ça assez intéressant et même formidable.
Alors, vous parlez du gouvernement.
Éric Métou, quand on a vu aussi la Corée du Sud, il y a vraiment, je ne sais combien de divisions d'écart entre ces deux équipes. La joie, justement, des Sud-Coréens, on avait l'impression, ils étaient déjà éliminés à la base. Donc là, en fait, ils ont joué leur finale.
Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est parce que la défaite de l'Allemagne, bon, effectivement, à part Verdun, Dunkerque, le chemin des dames, tout ça, enfin, on va revenir dessus. Mais c'est relativement anecdotique, parce que c'est historique, mais ça passera. Mais ce qui est formidable quand on regarde le match, c'est moi j'ai regardé le match, c'est la joie des Sud-Coréens à la fin. C'est-à-dire c'est tellement invraisemblable, c'était tellement inimaginable quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils pensaient prendre 3 valises et puis rentrer chez eux. Bon là ils en prennent que 2 et ils rentrent chez eux, mais quand même ils ont battu l'Allemagne. C'est-à-dire que peut-être pas dans l'histoire de la Coupe du Monde, parce que des grandes équipes qui se font battre, je pense que le Brésil battu 7-1 par l'Allemagne il y a 4 ans, c'était plus fort que ça.
Ouais.
Mais, et donc, et ils s'en remettront. Par contre, les Sud-Coréens, je pense qu'ils auront, en tout cas, très rarement l'occasion de faire une performance pareille, et ça va rester dans l'histoire du football sud-coréen. Ça, c'est sûr et certain. Et alors après, puisqu'on était à la diplomatie, pas par rapport à Kim Jong-un, je ne sais pas ce que ça peut avoir comme influence demain.
Emmanuel Foulon, avant de faire de la politique, vous étiez arbitre.
Vous avez été arbitre.
Pour vous, l'arbitrage vidéo, qui est une chose courante dans le rugby, ça a vraiment un avantage. On l'a vu aujourd'hui, ça a permis d'accorder le premier but sud-coréen. Au départ, on pensait que ça perdrait dans le rythme, etc. Et finalement, ça apporte véritablement quelque chose.
Moi, je suis convaincu. Je sais qu'il y a énormément de détracteurs qui disent que ça tue l'esprit du football. Mais en fait, c'est juste que l'esprit du football, il a évolué parce qu'on peut pas garder un sport qui ne rentrerait pas dans le 21e siècle comme les autres sports l'ont fait. Parler du rugby, faut savoir que rugby en France, on a l'arbitrage vidéo depuis 2006. Pendant les deux premières années, ça a été l'horreur. Tout le monde nous saoulait. C'était les joueurs, c'était les coachs, c'était les journalistes, c'était les supporters. Et puis maintenant, c'est devenu tellement normal, on ne voudrait même pas s'en passer. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Puis il faut savoir aussi, c'était quand même assez hallucinant que vous aviez la terre entière qui voyait qu'il y avait hors-jeu ou qu'il y avait faute. Les trois seuls pauvres qui ne le voyaient pas, c'était les trois arbitres sur le terrain. Donc, à peine vu une main, c'était aussi absolument limite écœurant et très difficile à vivre. Donc, c'est vraiment une promotion pour le football et pour le sport.
Emre Dj, pour vous en tant que spectateur, c'est quelque chose qui peut vous perturber, vous trouvez, ou au contraire, ça amène quelque chose?
Je trouve que ça amène une densité scénaristique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il se passe des trucs, on se dit, est-ce que... On peut appeler, donc ça rajoute encore un élément supplémentaire à la dramaturgie du football.
Ça pourrait presque faire rendre un match de l'équipe de France excitant.
Très bien, on aura en tout cas l'occasion bien sûr d'y revenir au cours de l'émission, puisqu'on suivra avec nos correspondants en Russie les matchs, donc Serbie-Brésil et également Suisse-Costa Rica, où il peut y avoir des surprises. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le Lifeline est arrivé dans le port de La Valette. La fin de près d'une semaine d'attente pour les 233 réfugiés, 8 États membres de l'Union européenne, dont la France, sont engagés à recevoir certains de ces candidats à l'exil. Au moins 17 civils, dont 6 enfants, tués aujourd'hui en Syrie, les victimes de raids meurtriers de l'armée et de son allié russe dans le sud du pays, selon l'Office syrien des droits de l'homme. Les ONG redoutent une nouvelle crise humanitaire. L'Allemagne ne méritait pas d'aller en 8e de finale. C'est le sélectionneur allemand qui le dit lui-même ce soir. Les joueurs de la Mannschaft ont donc été battus 2-0 cet après-midi par la Corée du Sud. 2 buts dans les arrêts de jeu. La Suède, en revanche, est qualifiée pour les 8e de cette Coupe du Monde. À suivre actuellement la Serbie face au Brésil et la Suisse opposée au Costa Rica. Emmanuel Macron signe le coup d'envoi de la réforme de la SNCF. Le président de la République parle d'une nouvelle page de notre système ferroviaire. La suite demain du 18e épisode de grève unitaire à la SNCF. La direction table entre autres sur 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5. Et puis les passages piétons couleur LGBT seront permanents à Paris. Une annonce ce soir de la maire socialiste Anne Hidalgo, 48 heures après la dégradation de ces passages piétons arc-en-ciel dans le quartier du Marais, avec des messages homophobes. Deux autres de ces passages piétons LGBT seront installés la nuit prochaine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Allez, on va revenir à l'actualité, puisque maintenant on sait qu'il y aura bien un service national universel. Les adolescents ont la même préoccupation que leurs parents et grands-parents, à savoir comment vais-je pouvoir y échapper. Puisqu'échapper au service militaire, ça a créé des liens entre générations. Par exemple, on se souvient tous d'Éric Ciotti, lui qui souhaite un retour au service militaire pour calmer les ardeurs des plus jeunes, en a été exempté par François Fillon, voilà son ami par exemple. Ça, on s'en souvient bien. Promesse du candidat Macron, le service universel a été présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Alors un groupe de travail a planché sur le sujet et préconise une première phase du service après la classe de 3e et une seconde phase avant 25 ans. Donc, information civique, une présentation des engagements relevant, on nous dit, de la sphère de la sécurité. Et ce serait l'occasion, selon le groupe de travail, de vérifier l'état de santé des jeunes aussi, de réaliser un bilan de compétences et des entretiens individuels. Les premiers appelés, ça serait en 2019, mais les plus informés jugent que c'est encore trop tôt, mais aussitôt présenté, aussitôt critiqué, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
Obliger des jeunes à faire des choses dont ils n'ont pas envie, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Par contre, favoriser que les jeunes puissent participer à des actions, des initiatives humanitaires ou d'autres, oui. Mais sur la base du volontariat, pourquoi pas.
Voilà, Philippe Martinez ce matin sur RTL. Audrey Goutard, on se souvient de la promesse initiale d'Emmanuel Macron, c'était pas ça du tout. C'était oui, militaire au départ.
C'était militaire, c'était beaucoup plus long, c'était effectivement géré par la troupe, hein, par les militaires. Et le principe de réalité est revenu, c'est-à-dire que ça coûte horriblement cher. Hein. On était parti sur 17 milliards, des casernes réquisitionnées, un personnel militaire qui est déjà exsangue à cause de la lutte antiterroriste qui aurait été repris, etc. Donc le principe de réalité est arrivé. Et effectivement, là, on tombe sur quelque chose de plus logique. 800 000 jeunes impactés, quelques mois maximum, et puis 1,6 milliard par an, c'est les chiffres officiels.
Alors 1 milliard, mais est-ce qu'on a les moyens ? 1 milliard aujourd'hui en France ?
Après, c'est pas une question. Enfin, est-ce que c'est la question qui se pose. Pardon. La question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est une question de moyens ou après, ça peut être une volonté aussi. C'est mobiliser des jeunes sur un projet, qui unifie.
Citoyen, en fait.
Donc bon.
Ouais.
Là-dessus.
Éric Métou, le caractère obligatoire, ça fait parler aussi. Est-ce que finalement, c'est ce qui peut choquer, que ça soit pris aussi sur le temps scolaire, ça paraît assez étonnant.
Je pense que tous les adolescents c'est en 2019, je crois que les premiers.
Donc,
tous les adolescents de 14 ans aujourd'hui doivent déjà commencer à se demander comment ils vont faire pour y échapper.
C'est ça.
Et puis, ça devient le sport national, comme le sport national était de se faire réformer de l'armée quand on y était. 1,7 milliard d'euros. Il y a un truc qui marche formidablement bien qui s'appelle le service civique. Qui est sur la base du volontariat. Je crois que c'est 150 000 gamins en ce moment. Et pourquoi ils n'ont pas mis cet argent-là ? C'est-à-dire que le service civique manque cruellement d'argent. Voilà, il y a un système qui marche. Mettons de l'argent dans le système qui marche. Ça, c'est les limites de la pratique Macron. C'est-à-dire, puisque je l'ai dit, je vais le faire. Alors bon, là, il le fait en plus vraiment au minimum. Hein. Mais puisqu'il a dit, il faut qu'il le fasse. C'est une mauvaise idée. Tout le monde dit que c'est une mauvaise idée. Les syndicats de lycéens, par exemple, sont déjà en train de monter au créneau.
Il y aura une consultation, d'ailleurs.
Franchement, il n'y avait pas autre chose à foutre aujourd'hui que de s'occuper du service national universel.
Et Emmanuel Foulon, pour vous, est-ce que ça peut jouer sur le côté, on a souvent dit service militaire, avec la fin du service militaire, on a perdu un brassage républicain, etc. Est-ce que là, c'est une manière de le faire revenir et surtout, est-ce que c'est pas un peu un fantasme?
Ouais, je pense que c'est un peu exagéré, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est quelque chose d'universel. Et on a déjà assez reproché à ce gouvernement de faire des choses qui sont plutôt clivantes, donc on pourrait se réjouir que quelque chose soit enfin universel à la sortie de ce gouvernement. L'idée, elle peut paraître sympathique, hein, parce qu'on a l'instruction civile. Vite, on a le premier secours, on a la BAFA. Mais au niveau politique, c'est peut-être aussi un danger. Bon, c'est vrai qu'il l'avait promis, mais il faut savoir quand même que les jeunes ne sont pas pour l'instant enclins à accepter l'idée. Et on sait que les sondages parmi les jeunes, pas ceux de 14 ans parce qu'ils votent pas, mais les un peu moins jeunes qui sont assez solidaires de cet âge-là, se disent profondément contre l'idée. Et on sait que dans les sondages, c'est pas la tranche qui plaît le plus. Enfin, pour Macron, en tout cas, c'est pas sa meilleure tranche d'âge. Et puis, les plus âgés non plus vont peut-être pas leur trouver leur compte parce que eux, ils auraient voulu que ce soit plus long. Ils auraient voulu que ce soit un vrai service civique, peut-être même un service militaire qui n'a plus rien de militaire. Et donc, ils risquent de jouer comme ça entre les deux. Donc, c'est peut-être un danger d'un point de vue sondage.
Il y a énormément de flou encore, Emery Doigé, parce qu'on ne sait pas où seront logés. En plus, aujourd'hui, c'est les gens qui vont faire ce service universel. Il y a plein de choses, en fait. On ne sait pas encore. Véritablement, on est dans le flou complet, budget.
Ce qui est logique, ça a été annoncé ce matin. Moi, je note avec amusement que c'est Blanquer qui répond aux questions du gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale et pas la ministre de la Défense. Donc il y a peut-être une tentative de rattraper le coup en le transformant en quelque chose qui peut-être deviendra plus orienté développement personnel, fait en sorte d'aller un peu mieux, ouvrir vers les autres, universalité, etc. Blanquer a l'autorité naturelle et puis la prestance médiatique et la capacité de communiquer sur ce sujet-là. Il y a peut-être une tentative de « j'ai dit que j'allais le faire, je vais tout faire pour y arriver, mais je fais quand même un petit pas de côté, histoire de calmer tout le monde. » Et un autre point, pardon, quand tout le monde est contre,
je pense que c'est peut-être le début d'une raison. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je connais le monde politique, quand on se rend compte que quand les gens sont contre, il y a peut-être quelque chose à tirer de cette universalité du contre.
Oui, écoutez.
Non, je veux dire simplement que, effectivement, le faire déplacer vers le ministère de l'Éducation nationale, c'est aussi pour faire supporter les coûts à d'autres que l'armée, puisque l'armée a tellement hurlé quand on a lancé cette idée, et puis elle hurle de toute façon depuis 2 ans, pour des raisons que l'on connaît. Donc, effectivement, c'est une façon de dispatcher entre le ministère des Sports, etc., l'Éducation nationale. Ça va être du coup, effectivement, quelque chose d'assez hybride, d'où le flou.
Mais est-ce que finalement derrière ça, il n'y a pas un terrible constat aussi sur le fait, quand on parle de citoyenneté, d'instruction civique, de brassage social, normalement c'est l'école?
Non, mais ça, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire faut se souvenir qu'il y a 15 jours, Emmanuel Macron a sabordé le plan banlieue de Jean Borloo, qu'on pouvait discuter, mais enfin, grosso modo, il a dit, c'est bien, t'as bien travaillé, mais on fait rien. Ouais. On fait rien. Le 1,7 milliard aurait pas suffi, ou 1,5 milliard aurait pas suffi à faire autant de bien à la banlieue qu'elle en a besoin, ça c'est certain. Mais en tout cas, cet argent-là aurait été mieux utilisé à aller aider les jeunes de banlieue à se sortir de leur ghetto. Là, on fait comme si, c'est peut-être une recette miracle. Alors, en 15 jours, on va faire des gamins, des adolescents citoyens, qui sont des citoyens, qui savent faire du bouche à bouche, puis qui d'un seul coup vont plus être des racailles, vont plus vendre de drogue, vont s'intégrer parfaitement, vont trouver du boulot quand ils vont envoyer un CV en s'appelant Mohamed. C'est du fantasme. C'est de l'incantation. C'est totalement inutile.
Dans les éléments de langage de Blanquer, ils veulent cultiver l'engagement. C'est une notion qui se rapproche de ce qu'était l'armée, mais adaptée aux contingences actuelles où effectivement il n'y a plus d'armée nécessaire de pouvoir avoir les uns en face des autres avec des tranchées, etc. Donc il y a cette idée de cultiver l'engagement. J'aimerais bien aller jusqu'au bout de l'idée pour voir un peu ce qu'il en tire. Parce qu'il y a une notion qui est hyper intéressante, de cultiver cet engagement de cette jeunesse.
Encore une fois, service civique, ça marche. Il suffit de rendre le service civique plus attrayant, d'attirer plus de volontaires, et on peut arriver à ça. Mais pas avec un... Enfin, est-ce qu'il y a un membre du cabinet de Blanquer, du ministère de la Défense, qui a réfléchi une seconde en se disant... Des gamins de 16 ans pendant 15 jours à faire du bouche à bouche dans un truc où ils n'ont absolument pas envie d'aller parce qu'ils n'ont aucune envie, c'est de partir en vacances, ça va les aider à faire quoi que ce soit pour la République française.
De façon très prosaïque, je suis d'accord avec Eric, mais de façon très prosaïque, ça va permettre aussi une chose, parce que j'ai bien compris qu'il reste ce point-là aussi dans le projet, ça va permettre d'abord de voir dans quel état de santé sont tous ces jeunes, de voir de quelle manière effectivement leur niveau d'études, leur niveau de lecture, tout ce que vous faisiez vous faisiez votre service militaire. Cet aspect-là, et cet aspect-là est important. Et c'est vraiment qu'aujourd'hui on parle des jeunes, les jeunes, mais on ne sait plus qui sont les jeunes. Et le passage au service militaire, où effectivement regarder le taux d'alphabétisation, où effectivement regarder la santé des jeunes, etc., est un moyen de comprendre qui est la jeunesse, quelle est la jeunesse aujourd'hui.
Et surtout, il devrait être mixte.
La mixité me paraît intéressante.
Après 15 jours pour faire de la mixité, c'est peut-être un peu...
On va revenir sur ce point dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Deux buts dans les arrêts de jeu de la Corée du Sud et l'Allemagne est éliminée ce soir de la Coupe du Monde. Les champions du monde 2014 ont été battus 2-0. La Suède en 8e de finale en battant le Mexique 3-0. À suivre actuellement sur France Info, la Serbie face au Brésil et la Suisse opposée au Costa Rica. Deux coffee shops fermés à Paris. 3 personnes sont en garde à vue à la brigade des stupéfiants. Elles sont interrogées après la perquisition de la police aujourd'hui dans ces deux boutiques rue Amelot, rue d'Akoubukir. Des personnes qui vendaient des produits issu du cannabis. Il s'agit de vérifier si ces deux enseignes respectaient la législation. À Saint-Étienne, dans un bar, des douaniers cherchaient des cigarettes de contrebande. Ils sont tombés sur un stock d'armes, dont une Kalachnikov, munitions, gilet pare-balles. Le propriétaire est déjà connu de la justice. Il est mis en examen et écroué ce soir. Le mot race supprimé de la Constitution française, un vote symbolique des députés à l'unanimité aujourd'hui sur le projet de révision constitutionnelle en commission. Les élus ont également introduit l'interdiction de distinction de sexe, une référence à l'égalité homme-femme. Nous n'oublierons pas vos clients non plus. Une nouvelle réaction de Donald Trump à l'annonce de délocalisation de Harley-Davidson du sol américain, une partie de sa production en tout cas. Le constructeur américain de motos prend cette décision car les taxes douanières sont passées de 6 à 31% sur certains de ses produits entrant sur le marché européen.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du service national universel. Ça y est, le projet a été dévoilé ce matin au Conseil des ministres. Les premiers s'appelaient, normalement, devraient l'être en 2019, normalement, voilà, si tout est prêt. Mais pour l'instant, il devrait y avoir déjà une consultation à l'automne pour savoir ce qu'on met dedans. Voilà, c'est déjà bien. Emmanuel Foulon, est-ce que pour vous, ce genre d'initiative, c'est comme ça qu'on apprend à devenir véritablement citoyen? Normalement, il y a de l'instruction civique, voilà, qu'on a tous fait, même au collège. C'est pas les cours les plus suivis, mais est-ce que ce genre d'initiative apprenne, à votre avis, une citoyenneté qui serait perdue aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'il est un peu trop tôt, peut-être, pour flinguer cette proposition, parce que je serais curieux de voir à moyen terme ce que ça peut donner. On a tellement critiqué en France les mesures de droite, les mesures de gauche des différents gouvernements. Et donc, ici, vous avez un Macron qui propose quelque chose, peut-être quelque chose d'autre. Évidemment qu'on pourra disserter où est-ce qu'on mettrait ce 1,7 milliard, où on pourrait le mettre à plein d'endroits, mais peut-être, voilà, on ne sait pas. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui propose quelque chose d'autre, à la rigueur, pourquoi pas? Je vais revenir aussi sur l'universalité du nom. Ouais. C'est marrant, parce que là, je vais faire du pro-Macron, mais il y a aussi une universalité du non sur les 80 km/h. Donc moi, je reste convaincu que ça reste une bonne mesure. Là où ça m'intéresse plus aussi, c'est qu'il y ait une consultation en septembre. Ça veut dire, OK, on prend une décision, mais on se permet quand même, c'est même pas un airbag, hein, c'est carrément, voilà, ici, il y a une période probatoire. Et puis, éventuellement, si ça marche, on ira plus loin. Et pour les 80 km/h, c'est pareil. Il a dit, si ça ne va pas bien dans un an et demi, on fera marche arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le risque aussi, Macron prend le risque, dans 2 ans, de se retrouver avec 2 mesures qu'il avait promis, finalement, qui se sont plantées. Il n'a pas intérêt à ce que les autres mesures se plantent. Et Dieu sait qu'il y a des mesures qui vont être beaucoup plus lourdes à implémenter dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Oui, sur l'expérimentation, en effet. Mais Audrey Goutard, est-ce que le côté au départ militaire, on voit, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, notamment un attentat ou des choses comme ça, on entend des politiques dire il faudrait vraiment le rétablissement du service militaire pour calmer tous ces gens-là. C'est marrant que c'est resté quand même dans les têtes comme un moyen où on se dit qu'on va les cadrer.
On va cadrer toute cette jeunesse. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça l'idée. Bien sûr que c'est l'idée, c'est de cadrer la jeunesse. C'est le vieux fantasme républicain finalement, puisque et puis il y a une époque où on les envoyait à la guerre en plus. Donc là, on n'envoie plus la jeunesse à la guerre, mais effectivement, on a toujours ce souhait de les cadrer. Alors après, comme il n'y a plus de guerre, comme on n'en fait plus des militaires, et ben on transcende. Et transcender, c'est créer un espèce de, cette espèce de nom qu'on retrouve. C'est citoyen, civique, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'apprend plus aux jeunes à faire la guerre, on leur apprend à être des citoyens. Pourquoi pas? Moi, je dirais, laissons la chance aux produits aussi.
Emery Doigé, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire derrière, un petit peu, on se souvient quand ça a été fait cette promesse, c'était en mars 2017, c'est-à-dire 2 mois avant le premier tour. Ça sent un petit peu l'idée trouvée, on s'est dit, on ne sait pas si on va la réaliser, mais ça fait bien sur le moment, non?
Oui, il y a de ça, mais ce qui est intéressant dans cette idée,
faut dire.
Oui, mais ce qui est intéressant dans cette idée,
perfide.
Reprenez toutes les idées de Macron. On verra à la fin du quinquennat. Je suis persuadé qu'il va tout essayer pour qu'elle passe. On l'a vu depuis un an, marche forcée, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le pas de côté. Et effectivement, ça devait être l'armée avec un côté un peu droitier, etc.
Régalien, c'était son fameux volet régalien pendant la campagne.
Et là, on a fait un petit pas de côté. Plus social. On passe du soldat armé au soldat social. Il y a une espèce de pas de côté de, et en même temps, on était à droite, et puis là, on passe un peu à gauche. Il y a peut-être le début du changement, d'une volonté de changer pour aller vers plus de social.
Mais tout, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout convaincu.
La religion sur le pied gauche, je ne sais pas. Mon camarade a beaucoup d'imagination.
Mais oui, mais il en faut.
Je le connais ça.
Il en faut, Eric, il en faut.
Alors, savoir dans cette mesure le pas de côté de gauche d'Emmanuel Macron, j'ai un peu de mal. Ça reste quand même la laïcité plutôt droitière, on leur enseigne, c'est un peu à la schtag quand même, on les oblige à y aller, tout ça. Bon, non, ça va être une schtag relative, mais c'est quand même, on les oblige à y aller, j'appelle.
Comme pour le service militaire, il n'y a pas tous ces trucs-là.
Non, mais je suis pas sûr que les gamins qui sont appelés à y aller trouvent que c'est une mesure de gauche.
Alors, en tout cas, il y aura une occasion de prolonger aussi cette expérience. Un mois, voilà, si on veut véritablement continuer dans son parcours citoyen. Emmanuel Foulon, c'est pour vous, on reste quand même dans cette histoire de nostalgique. C'est un homme, Emmanuel Macron, qui n'a pas fait son service militaire. Il est lui, c'est normal, il appartient à une génération où Jacques Chirac l'avait supprimé. On reste quand même toujours, pour vous, quand vous regardez par exemple l'image de la France, dans cette idée aussi du brassage républicain grâce à l'armée.
Alors brassage républicain, ancienne grande puissance mondiale, et toujours grande puissance mondiale sûrement pour certains. Je ne voudrais pas me faire chasser du plateau à 21h. Mais il y a un double public cible, je reviens là-dessus. Il y a un public cible qui est les jeunes et effectivement sûrement avec des bonnes intentions et aussi parce qu'il fallait qu'ils sortent quelque chose parce qu'il a dit qu'il allait mettre en place toutes ses promesses électorales. Mais il y a aussi un public cible beaucoup plus âgé, votre génération, sans vouloir vous offenser, et puis les plus âgés. À qui ça fait du bien de se dire, au lieu d'entendre cette belle phrase, ils auraient besoin d'une bonne petite guerre, ici on entendra, tiens, ils ont encore besoin d'un bon petit service national universel. Moi j'aime autant cette version-là.
Très bien. Bon bah écoutez, en tout cas, voilà, c'est à voir, hein, voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, j'en fais partie également, on va peut-être découvrir des choses. Allez, dans un instant, on parlera Europe, migrants, parlera également d'Emmanuel Macron, qui n'est pas très. Édouard Philippe, d'ailleurs, tous les deux, le couple hein, exécutif qui n'est pas très en forme dans les sondages. Voilà le programme à suivre dans les informés de France Info.
Économie. Le groupe américain a annoncé la semaine dernière qu'il ne pourrait pas honorer sa promesse. Cette promesse, c'est celle de créer 1000 emplois nets en France d'ici la fin 2018.
International. Il y a au Royaume-Uni 28 000 citoyens européens de moins que l'an dernier. En tête des destinations de départ, l'Allemagne.
Culture. Fare Thee Well, le nom de la tournée dans laquelle John Baez est embarqué, s'entend comme un salut ou un adieu. Mais pour celle qui a sorti son dernier album en mars, cela ressemble plus à la conclusion de 60 ans de carrière bien remplie.
Pour l'info, 24 heures sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info. Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info, 24 heures sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Soleil et chaleur seront encore au programme de la journée de demain. Le ciel sera quasiment tout bleu ou légèrement voilé dès les premières lueurs du jour. Des bords de la Garonne au piémont pyrénéen, des nuages bas recouvriront le ciel en matinée, donnant même un peu de bruine vers le Pays Basque. Ces grisailles vont progressivement se déchirer et le soleil finira par s'imposer. Quelques bancs nuageux retarderont aussi l'arrivée du soleil sur les plages de la Manche et sur la Côte d'Azur, mais le ciel va rapidement s'éclaircir. Demain après-midi, le soleil va continuer de rayonner sur l'ensemble de l'Hexagone. En revanche, en montagne, le ciel sera un peu plus variable. Quelques averses sont même à craindre sur les Alpes du Nord et le relief Corse, et sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, ce sont même des orages qui sont attendus. L'ambiance restera chaude et bien ventilée. Demain après-midi, il fera 27 degrés à Strasbourg et à Aurillac, 28 degrés à Lille, Dijon et Abbeville, 30 degrés pour Paris, Lyon et Marseille. On ira jusqu'à 31 degrés à Montpellier, Bordeaux et Nantes, mais il fera seulement 22 degrés à Bayonne.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Même le sélectionneur national Joachim Löw le reconnaît ce soir. L'Allemagne ne méritait pas de remporter un nouveau titre ni de se qualifier pour les huitièmes de finale. La Mannschaft donc éliminée dès le premier tour du mondial de foot, humiliée 2-0 cet après-midi par la Corée du Sud. La Suède est qualifiée pour les huitièmes en battant le Mexique 3-0. Et puis deux matchs ce soir sont en cours. Le Brésil contre la Serbie, la Suisse contre le Costa Rica. Et toujours pas de but, hein, Claude Bruyot.
Absolument, 0-0 entre le Brésil et la Serbie au Stade Loujniki à Moscou. Deux occasions quand même pour le Brésil. Neymar dans un angle très fermé qui se heurte à la parade du gardien serbe Stojkovic. Et puis, il y a quelques instants, Coutinho donc qui joue un petit peu trop facile. On sent les Brésiliens assez à l'aise évidemment techniquement face aux Serbes, mais parfois trop relâchés. Et du coup, cette équipe serbe s'en sort bien pour l'instant après maintenant une demi-heure de jeu. Toujours 0-0 donc entre le Brésil et la Serbie. Et dans l'autre rencontre, 0-0 également entre la Suisse et le Costa Rica. Ce qui fait que si on en restait là, eh bien, alors qu'à l'instant même, ce sont les Suisses qui ouvrent la marque, donc la Suisse qui ouvre la marque face au Costa Rica et qui, du même coup, eh bien, prend provisoirement peut-être la première place de ce groupe E devant le Brésil, tenu en échec, donc toujours par la Serbie. 0-0, 1-0 donc pour la Suisse face au Costa Rica après 30 minutes de jeu.
Claude Bruyot en direct de Russie, merci. La fin de l'Odyssée du Lifeline à Malte ce soir. Le navire humanitaire et ses 233 migrants à bord a accosté dans la soirée dans un port de l'île. Il était en quête d'un port d'accueil depuis une semaine en Méditerranée. Les migrants seront pris en charge par la France, l'Italie ainsi que 6 autres pays européens. Les migrations vers l'Europe qui seront d'ailleurs au au cœur d'un sommet européen difficile demain et vendredi à Bruxelles. Sur le sujet, la mise au point de Benjamin Griveaux, lendemain des critiques d'Emmanuel Macron sur l'ONG Lifeline. La France salue le travail des organisations humanitaires, déclare le porte-parole du gouvernement, mais celui-ci doit se faire dans le respect du droit international. Fin de citation. Roland Ries, mis en examen pour favoritisme dans une affaire liée à la construction d'un tramway à Bamako, au Mali. Le maire socialiste de Strasbourg se dit ce soir très serein. L'enquête porte sur la réalisation en 2009 d'une étude à 50 000 euros financée par Strasbourg au titre de la coopération avec le Mali et attribuée à trois sociétés alsaciennes sans mise en concurrence. La fermeture de BuzzFeed suspendue par la justice dans l'attente de nouveaux documents. Selon une salariée, les 14 employés du média en ligne avaient déposé un recours en référé devant le tribunal de grande instance de Paris contre la fermeture prévue le 20 juillet. Créé en 2006, BuzzFeed était devenu un acteur important sur Internet grâce à des contenus viraux, des quiz, des recettes ou encore des listes. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, deuxième partie.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils se demandent, mais pourquoi tout le monde s'intéresse à la Coupe du Monde? Il y a une Coupe du Monde? Bon, ça c'est nouveau, nous on n'aime pas du tout ça. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou de l'Express, également Emmanuel Foulon du groupe PS Belge au Parlement européen, Audrey Goutard, la rédaction de France Télévisions, et le communicant Emery Doliger. Alors normalement, quand on dit à un chef d'État, demain il y a un Conseil européen, celui-ci hurle de joie à l'idée de passer deux jours tranquille à grignoter des apéricubes, à monter sur le dos du Finlandais, à mettre sa cravate autour de la tête après une deuxième chope de bière, une petite parenthèse sympa. Cette fois-ci, ça sera différent. Demain et vendredi, les pays de l'Union européenne se réunissent pour parler Brexit et immigration et réfugiés. Depuis quelques semaines, la tension s'est exacerbée entre pays voulant accueillir et ceux qui ne souhaitent plus. Le mini-sommet dimanche dernier n'a abouti sur pas grand-chose. Il y a fort à parier pour que vendredi soir, on dise que pas grand chose, on ne sortira non plus. Après l'Aquarius, c'est donc au tour du bateau de l'ONG allemande de faire parler de lui. En perdition dans la Méditerranée, Malte bien l'accueillera ce soir, ce bateau du Lifeline. La France et l'Italie accueilleront une partie des passagers tout en mettant en garde le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Beaucoup d'ONG sont pleinement impliquées et ont le soutien de l'Union ou de la France dans les actions qu'elles ont engagées sur le terrain, mais où, de la même manière, on leur demande de respecter simplement le droit et là, en l'occurrence, la sécurité. Parce que quand vous débranchez votre radar à l'approche des côtes libyennes, vous risquez de mettre en danger la sécurité des personnes qui elles-mêmes sont en demande d'aide.
Voilà, Benjamin Griveaux, donc, qui reprend les propos aussi tenus par Emmanuel Macron la veille à Rome. Éric Métou, cette fois-ci, Emmanuel Macron a réagi plus vite que ces leçons de l'Aquarius.
Pas tellement.
Ah bah sur le, il a tout de suite parlé quand même du bateau.
Oui, oui, enfin c'est relatif. Ça c'était pas l'éclair quand même. On peut pas dire qu'il est sauté sur le bateau pour le faire accoster.
Mais au moins il a évoqué parce que la dernière fois il l'évoquait même pas.
Il l'a évoqué puis il a tapé sur les ONG qui font un boulot remarquable. Ça s'appelle détourner l'attention. Ça s'appelle trouver un bouc émissaire et je trouve ça assez honteux même globalement. Ces types prennent des risques. Ils ont raison. Il y a des gens qui meurent en Méditerranée et on vient leur dire c'est vous qui c'est pas les ONG qui font venir les migrants. C'est d'une part la pauvreté et c'est d'autre part l'insigne irresponsabilité des pays européens. Je dis pas de l'Europe, je dis des pays européens, la France en tête. C'est-à-dire si on veut éviter que les migrants se noient en Méditerranée, on organise leur venue, on se débrouille. Alors des hotspots, pas des hotspots, on peut en discuter, mais on fait pas comme ça, on se cache pas les yeux.
Ouais.
C'est exactement ce que font tous les pays d'Europe, sauf l'Allemagne et l'Espagne, et en premier lieu, la France.
Alors, Audrey Goutard, quand même, on entend beaucoup en ce moment cette musique, et que ça soit à droite, à gauche, ou même La République En Marche, Richard Ferrand en parlait, des ONG qui seraient les complices involontaires des passeurs. Ça, c'est des phrases qu'on n'entendait pas auparavant, véritablement, dans la bouche de députés autres, Rassemblement National.
Oui, c'est des phrases qu'on n'entendait pas, c'est des phrases de peur, de défiance, et je voudrais remettre dans le contexte. C'est-à-dire que cette année, vous avez deux fois moins de traversées, de migrants qui traversent la Méditerranée, année que les années précédentes. Vous avez aujourd'hui moins de migrants qui traversent. Vous avez aujourd'hui des migrants qui, effectivement, comme les Syriens, restent dans leur pays parce que c'est la Syrie actuellement, effectivement, comme on connaît, une période de calme. Donc, il y a moins de et on a moins de migrants et en même temps, on n'a jamais eu une telle crise politique à ce niveau-là et des phrases à l'emporte-pièce, parce que c'est des phrases à l'emporte-pièce. Moi, je suis totalement d'accord avec Eric pour avoir suivi le travail de ces ONG, etc. Il est évident que ce ne sont pas des militants qui vont susciter l'appel d'air, créer un appel d'air et susciter la venue de migrants.
D'accord, en fait, c'est des chiffres. Il y a eu 1 million en 2015 à 172 000 l'an dernier. Et depuis le début de l'année, on est à 43 000. Et pour la seule Italie, la baisse a été de 80% avec 16 000 arrivants au total. Alors, cette situation, ça donne forcément, ça monte une petite tension au sein de la politique française. Et cet après-midi, il y a eu une passe d'armes entre Olivier Faure, le secrétaire national du PS, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. On écoute ça.
Où est le cynisme ? Chez ceux qui appliquent la Convention de Genève ou chez ceux qui affichent leur compassion au Vatican pour mieux, en même temps, délégitimer l'action des ONG ?
S'agissant du cas particulier du Lifeline, il n'est effectivement pas acceptable que ce bateau ait coupé ses balises, refusé de répondre aux messages des autorités maritimes et même se soit prévalu indûment du pavillon néerlandais.
Voilà, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale, Gérard Collomb, Olivier Faure. On entend le mot cynisme, est très discuté, Emmanuel Foulon. C'est le président de la République qui a employé ce terme, cynisme, à propos des ONG.
Oui, bah écoutez, c'est un peu scandaleux parce qu'il faut rappeler aussi que les ONG elles font le travail de ce que devrait faire l'Union européenne, je vais dire de manière générale. Et en plus, ce qui va se décider demain, c'est-à-dire pas grand-chose. On est d'accord sur quoi ? On est d'accord sur le fait de passer de 1500 à 10 000 gardes-côtes pour la zone Frontex. Frontex, c'est un peu, voilà, c'est les gardes-côtes, c'est la police des mers. Mais ça restera très très peu comparé aux flux migratoires. L'immense problème européen, en fait, il est national, c'est-à-dire c'est les égoïsmes nationaux qui n'arrivent pas à s'entendre pour changer en tout le traité de Dublin. Le traité de Dublin, donc, c'est que vous êtes traité par le pays, enfin, dans le pays dans lequel vous rentrez. Et donc, finalement, la France, par exemple, et on parle de cynisme en France, allez, s'il n'y a pas un pouvoir plus hypocrite sur cette question, c'est bien le pouvoir français qui systématiquement refoule les migrants vers l'Italie. Et il n'y a pas que les Français, tout le monde se réjouit bien que l'Italie serve de tampon.
Emmanuel Foulon, ça, on peut l'entendre, mais on entend aussi des opinions publiques qui sont de plus en plus défavorables aussi à ces accueils. On les entend, ça aussi.
C'est la conséquence directe de ce que je raconte. On assiste vraiment à une urbanisation de l'Europe. Vous avez l'Autriche, l'Italie, vous avez la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie. Enfin, énormément de pays qui sont contre l'arrivée des migrants, d'une part. Et puis, il faut savoir que dans les opinions publiques, c'est en train de basculer. Il y a une opinion publique qui est en train de basculer pour être contre les migrants. Même chose dans les gouvernements. Et ça risque de ne pas s'arranger. Donc, il y a une droitisation aussi de tous les pouvoirs en place. Et on est à un an des élections européennes. Je crains qu'il y ait d'énormes conséquences dans l'hémicycle dans un an.
On va en parler de ces conditions justement pour les élections européennes. Mais juste avant, on va prendre une bouffée d'air. On va partir en Russie, rejoindre Claude Brouillot dans les matchs du soir et notamment de matchs qui opposent la Serbie au Brésil. Il y a un but, hein, Claude?
Oui, un but brésilien, un but signé Paulinho, un but 100% barcelonais sur une magnifique couverture de Philippe Coutinho dans l'axe. Paulinho qui prolonge hors de portée du gardien Stojkovic, le gardien serbe donc battu après 36 minutes de jeu. 1-0 pour le Brésil, toujours 1-0 également pour la Suisse face au Costa Rica. Un but signé Djemali à la demi-heure de jeu.
Merci beaucoup Claude Brouille, on aura l'occasion bien sûr de vous entendre tout au long de la soirée. En attendant, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron signe le coup d'envoi de la réforme de la SNCF. Le président de la République déclare au passage que l'entreprise publique a désormais tous les atouts pour réussir et la modernisation du pays se poursuivra, dit-il, sur d'autres sujets. Une signature alors que ce sera demain le 36e et dernier jour de la grève unitaire à la SNCF. L'Assemblée nationale vote la loi de programmation militaire. Le texte prévoit notamment de porter les dépenses de la défense à 2% du produit intérieur brut. C'était un engagement de campagne du candidat Macron, une loi pour la période 2019-2025. Que c'est triste, la réaction en ces termes du porte-parole du gouvernement allemand après l'élimination de la Mannschaft. Les footballeurs allemands éliminés par la Corée du Sud 2-0 dans les arrêts de jeu. Qualification du Mexique. Actuellement, le Brésil mène 1-0 sur la Serbie et la Suisse domine le Costa Rica sur le même score, 1-0. Il était le patriarche de la famille Jackson. Joe Jackson est mort aujourd'hui à 89 ans à Los Angeles des suites d'un cancer. C'est lui qui est à l'origine du groupe des Jackson 5 en 1969, avant la révélation de son fils Michael Jackson. Et puis la Chine lève l'embargo sur l'importation de bœuf britannique. Quelques jours après avoir signé la même mesure avec les Français, c'est la fin d'une interdiction vieille de 20 ans sur la viande issue de Grande-Bretagne. C'était à l'époque la crise de la vache folle en Europe.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Demain, il y a un conseil européen où l'on parlera forcément d'asile, d'accueil et de migration. Et notamment, alors ce soir, il y a bien sûr le bateau de l'ONG Lifeline qui a été accueilli à La Valette avec 234 migrants à son bord. Emery Doliger, ce matin, l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit disait « En ce moment, en fait, l'Europe ne vit pas une crise migratoire, mais des crises politiques. » On est vraiment dans plutôt une crise politique.
Je ne sais pas si on est dans une crise politique, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Parce qu'on parle de quoi ? On parle de 234 personnes. 234 personnes rentrent dans ce studio à peu de choses près. On parle de rien et pourtant on en fait tout un pataquès.
Donc c'est parce pas qu'il y a un antécédent aussi.
Oui, mais c'est pas un problème migratoire. On rappelait tout à l'heure que en 2017 il y avait 1 100 000. Cette année on est à 48 000-43 000. L'année dernière c'était 172 000.
Ouais, c'est donc, ça.
On parle de quoi? On parle de rien. Et on en fait un énorme truc. Je rappelle juste que la France, pays des droits de l'homme, censé incarner l'humanisme, l'accueil, la bienveillance, etc., on est où? On n'est juste pas à notre place. Et donc, comme on n'est pas à notre place, les autres pays ne sont pas à leur, normalement.
Oui, mais Audrey Coutard, Emmanuel Macron, qui avait un petit peu pris comme modèle Angela Merkel pendant la campagne aujourd'hui, il le voit bien, j'en parlais tout à l'heure, des opinions publiques. Ces opinions publiques qui sont hostiles, donc qui jouent aussi avec ça. Il doit faire avec ça, comme beaucoup aujourd'hui, de dirigeants européens.
Peut-être, mais surtout, je dirais que il rentre dans cette vieille tradition des politiques, de crier en disant attention, si vous venez, on ne vous supporte pas, on ne veut plus de vous, etc. De rejet des migrants, en se disant bah comme ça, ils se diront que c'est pas bien de venir chez nous. Mmh. Donc il y a ça aussi, c'est cette espèce de hurlement européen des États européens à dire ne venez pas chez nous, on veut pas de vous, etc. C'est une façon de se dire bon bah finalement, et peut-être qu'ils viendront pas, etc. Et par ailleurs, c'est aussi on comprend bien que les politiques aujourd'hui sont très mal à l'aise, comme vous le disiez, vis-à-vis de leur opinion publique, parce que l'opinion publique, finalement, dit d'un côté qu'il n'en veut pas, mais quand les migrants sont chez eux, à leur porte, dans leur village, on voit bien dans les camps de réfugiés, ouais, etc., qui sont actuellement en France, ils les accueillent bien et ça fonctionne. Donc c'est quasiment un réflexe schizophrène.
Emmanuel Foulon, justement, vous travaillez au Parlement européen. Demain, il y aura donc, contrairement à dimanche dernier, où il y avait juste les pays qui étaient d'accord pour discuter autour du sort des migrants, demain, il y aura tout le monde. Et il y aura notamment les pays les plus hostiles, comme ceux qu'on dit du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Quelles sont les chances de, à me convaincre, ces pays-là, d'adhérer à cet axe entre Paris et Berlin d'accueil des migrants?
À peu près autant de chances que le Costa Rica gagne la Coupe du Monde.
Ouais.
Et alors, sur un ton un peu moins badin, je serais déjà content si la réunion arrive à son terme.
Pour vous, il y a une possibilité que ça n'aille pas jusqu'à vendredi, qu'il y ait des départs?
Bien sûr, et d'ailleurs, je pense que Salvini a tiré un coup de semonce, c'était ce matin ou hier, où il expliquait, d'ailleurs, il a tiré sur Macron, en expliquant que, voilà, Orban, il a accepté 0 réfugié sur 300, et Macron, lui, il lui en manque 9 000 pour être dans les quotas. Donc il explique que finalement Macron il est 15 fois plus terrible et pénible que les Orban. Ça donne toute l'idée du climat qui va régner demain lors de cette réunion, où à mon avis rien ne se décidera. Et puis parce qu'il y a aussi une droitisation très très forte. On parlait d'ultra droite maintenant pour parler de l'extrême droite, ça c'est intéressant. Ouais. Mais en tout cas de droitisation de manière générale de l'opinion publique. Et je voudrais revenir sur 2 chiffres qui sont assez interpellants, qui sont sortis cette semaine. C'est 66% des Français sont contents qu'on n'ait pas accueilli l'Aquarius. Et 61% trouvent que la politique de Macron et de Collomb n'est pas assez dure. Donc évidemment, derrière, vous allez avoir du mal à trouver une réponse. Mais peut-être aussi, c'est le moment où vous devez avoir des politiques courageuses. Je vais finir juste là-dessus disant que, souvenez-vous, Emmanuel Macron s'était fait remonter les bretelles par Emmanuel Valls à l'époque, parce qu'Emmanuel Macron avait dit à Valls « Moi, je veux qu'on joue à la carte de l'ouverture avec les migrants. » Et Valls a dit « Il est hors de question, tu ne dis plus jamais ça sur antenne.
Ouais. »
On en est loin aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est ça, oui. Non, mais, Éric Mettou.
Les opinions publiques, mais qui les a faites, les opinions publiques sur l'immigration? Qui les a faites? D'abord, c'est des années d'inconséquences, de politiques inconséquentes sur l'immigration nationale en France. européenne, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc effectivement, quand vous accueillez, vous refusez d'accueillir des réfugiés, et que quand vous les accueillez, vous les mettez sous un pont à la porte de la chapelle, évidemment que à partir du moment où les pays ne sont pas capables de s'entendre pour se répartir les réfugiés, évidemment que le populisme monte. Quand vous laissez l'Italie dans la situation dans laquelle elle est toute seule face à cette immigration massive, sans qu'aucun pays européen ne lève le petit doigt pour l'aider, évidemment que le populisme monte. Et il y a qui en face? C'est qui les gens qui... Il y a Macron, mais c'est qui? C'est Orban, un antisémite de plus en plus visible. C'est le chancelier autrichien des néo-nazis. C'est Salvini, mais des néo-fascistes.
Excusez-moi, Eric, c'est quoi le problème? Je vais juste vous poser une question. Le problème, c'est que ces gens-là ont été élus démocratiquement.
Ah, mais bien sûr qu'ils
ils sont aussi crédibles que n'importe qui.
En jouant leur partition à eux, en allant sur leur terrain à eux, en reprenant leur thème de campagne, on fait quoi? Ouais. On conforte l'opinion publique dans le fait qu'effectivement, tout ce qui va mal en Europe aujourd'hui, c'est la faute aux migrants. Et c'est pas vrai.
On a une chance historique. Effectivement, il y a tous ces gens à peine fréquentables dans certains pays d'Europe. Et nous, on a une opportunité de montrer qu'on est autre chose, autrement, et qu'on peut accueillir. On parle de rien, on parle de 234 personnes, c'est rien.
Allez, en tout cas, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir demain, puisque ça sera l'ouverture de ce sommet, normalement, qui devrait durer donc 2 jours, avec donc les 28 membres de l'Union européenne. Allez, quand tout va mal, on peut faire des bêtises. Vous le savez, ça, on est seul chez soi, les vacances approchent, et dans un geste de désespoir, on s'inscrit à un club de vacances interdit aux mineurs. Ah ben non, ça va pas, et le coup de Schwartz en ce moment pour l'exécutif, il est total. Emmanuel Macron au G7, ça se passe pas bien avec Donald Trump. Emmanuel Macron et l'Europe, on vient de l'entendre, ça coince. La Cour des comptes qui s'inquiète de la future trajectoire budgétaire, des élus fatigué, des 80 km/h qui fâchent, et puis toujours cette image de président des riches et cette blague sur la mafia bretonne qui ne fait pas rire le pape du tout. Il y a quoi? Mais d'ailleurs, il y connaît quoi le pape en Bretagne? Je sais pas, il a déjà été à Plougastel? Non, bon, bah ça va, 5 minutes aussi. Un cocktail qui fait chuter l'exécutif dans le grand bain des sondages. Une enquête Odoxa d'hier montre que le Premier ministre et le président de la République atteignent leur record d'impopularité avec 59% d'opinion défavorable. Ils gagnent à droite, perdent à gauche, mais franchement, qui s'en soucie? La députée La République En Marche, Aurore Berger.
Non, il n'y a aucun feu dans la maison et en ce qui me concerne, il n'y a aucune inquiétude. Je pense que si on fait comme ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire qu'on est guidé uniquement par les sondages, alors on navigue à vue et plus personne ne comprend rien à la politique qu'on mène.
Voilà, Aurore Berger, donc sur France 3, Aymeric de Ligé, ça marche encore cet argument, on ne fait pas attention aux sondages, on ne les regarde pas.
Mais moi, je suis le premier à vous le dire. Et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une question que vous faites à pour moi à chaque fois parce que chaque fois que je viens, on parle des sondages. Et à chaque fois, je vous réponds la même chose. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, ça descend. Mais une autre fois, ça monte.
C'est pas la question que je vous ai posée. Alors la question que je vous ai posée, c'est quel président ne regarde pas les sondages? Il y a un moment, on va arrêter.
Je vais répondre à votre question, mais je veux juste contextualiser le truc en disant, ok, les sondages, ça monte et ça descend.
Bien sûr.
Ça, c'est la première contextualisation. Deuxième contextualisation, c'est que les deux là qu'on a au sommet de l'exécutif, aucun des autres de leurs copains précédents ont été aussi haut après un an. Donc, bon, ça descend, on en fait des tonnes de papiers dans la presse depuis dimanche, depuis le JDD. Très bien, très bien. Maintenant, pour vous répondre à votre question, c'est aucun.
Aucun quoi? Aucun?
Aucun ne regarde pas.
Ah oui, aucun ne regarde pas, d'accord. Très bien, voilà, c'est pour ça. Audrey Goutard, alors ce qui est assez marrant d'en parler tout à l'heure, Emmanuel Fonon parle, mais c'est ce qui fait chuter, c'est ce dont on parlait ici même la semaine dernière, les 80 km/h. Oui. Ça a un impact impressionnant aujourd'hui, moins 5 points pour l'exécutif sur ce sujet.
Mais oui, mais ça doit être une symbolique que nous, Parisiens, qui nous échappe, enfin, en tout cas,
qui est très
profonde. Oui, je fais du parisianisme, excuse-moi.
Nous, Parisiens,
ça. Quand on lit comme ça, qu'effectivement, c'est les 80 km/h qui ont fait baisser de 5 points, je comprends. Je respecte effectivement que ça puisse agacer les gens, ces 80 km/h, mais c'est vrai que voilà, ça tient à un symbole. C'est un symbole pour les gens. Les 80 km/h, eh bien, c'est le symbole du parisianisme,
la décision d'en haut, en fait, c'est ça.
La décision d'en haut, et elle symbolise tout ça, et ça fait perdre 5 points.
Voilà. Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Le Lifeline est arrivé ce soir dans le port de La Valette. La fin de près d'une semaine d'attente pour les 233 réfugiés, 8 États membres de l'Union européenne dont la France se sont engagés à recevoir certains de ses candidats à l'exil. Dans un premier temps, Malte ne voulait pas de ce bateau et mettra le navire sous séquestre. Pour son gouvernement, le capitaine a violé les lois internationales. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des attentats contre des musulmans ou des mosquées en France. Les 10 militants d'ultra-droite, interpellés le week-end dernier, derniers sont présentés depuis cet après-midi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Certains de ces 10 suspects pourraient d'ailleurs être incarcérés. Le service national universel sera d'un mois obligatoire pour les jeunes à partir de 16 ans. Les grandes lignes ont été précisées ce matin en Conseil des ministres. Un rapport préconise ensuite une partie facultative de 3 à 12 mois. Le but, après consultation, serait de permettre ce brassage social dès l'été 2019. L'Allemagne éliminée de la Coupe du Monde de foot après le 2-0 infligé par la Corée du Sud dans les arrêts de jeu. 1-0 actuellement pour le Brésil face à la Serbie. 1-0 pour la Suisse sur le Costa Rica et c'est la mi-temps. La Suède, elle, s'est qualifiée pour ses huitièmes. Et puis un ultimatum de la mairie de Paris pour les Vélib. La municipalité demande aux prestataires Smooth & Go de régler les dysfonctionnements avant le mois de septembre. Les problèmes n'ont cessé de s'accumuler depuis janvier dernier et la reprise par l'entreprise Montpellier-Rennes de ses services de location de vélos à Paris et dans son agglomération.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle du coup de grisou en ce moment sur l'exécutif, ça pèse dans les sondages, ça va pas très bien au niveau international, il y a un peu de mal un an après finalement l'élection, et c'est ça aussi Emmanuel Foulon, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas devenu finalement un président comme un autre ?
Oui, peut-être.
C'est ça, parce... Il est devenu voilà le président, voilà.
Un président classique. Normal. Vous allez faire plaisir à François Hollande s'il nous écoute.
Hein, ouais. Il écoute tout le temps d'ailleurs, c'est pour ça.
Ouais, mais alors d'une part, je pense pas qu'il soit totalement rejeté, mais il y a juste un affaiblissement dans les sondages. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aussi, tout le monde lit les sondages. Bien c'est sûr. Un peu comme l'horoscope, personne n'y croit, mais tout le monde les lit. En interne, il y a eu quand même pas mal d'événements ces dernières semaines ou de petites phrases cette semaine qui ont été malheureuses. Il y a eu l'histoire de la piscine, la vaisselle, la photo de la fête de la musique, le jeune qui a été recadré sèchement, et le pognon dingue pour faire du social. Mais tout ça a un point commun, c'est de nouveau, c'est l'argent. Et une image qui reste et qui s'incruste de plus en plus profondément, c'est le président des riches. Puis en externe, vous l'avez évoqué, hein, ça ne fonctionne pas non plus. Depuis qu'il y a eu ce... Depuis qu'il s'est fait poser un lapin ou même un râteau, il s'est pris un râteau avec Trump, ouais. Tout s'enchaîne, il perd ses alliés, il n'a jamais eu Ramsey parce qu'il n'a pas été là. L'Allemagne est de plus en plus faible aussi, donc au niveau international, il a du mal à s'en sortir. Donc finalement, il y a très peu de voyants qui sont verts, donc on peut comprendre que ça se tasse.
Oui, Eric Metou, c'est cette salle passe aussi. Est-ce qu'elle est... À un moment, on a vu Emmanuel Macron faire beaucoup de com', là récemment, même sur les réseaux sociaux. On a vu sur le pognon dingue, sur de remettre en place un adolescent qu'il avait appelé Manu. Ça sert, ça, finalement ? Vous pensez ?
Non, mais
il n'y a pas eu de temps par rapport au sondage aussi, mais est-ce que ça sert ? On a vu un excès de com', on avait dit au départ d'Emmanuel
c'est
Macron.
C'est la spécialité d'Emery, mais oui. En termes de com', je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque depuis quelques mois. Il en fait beaucoup trop. La Ve République, c'est quand même un président de la République qui se protège derrière son Premier ministre, qui est le fusible. Là, Macron baisse plus vite qu'Édouard Philippe, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, la chance qu'il a, Emmanuel Macron... c'est qu'en face de lui, il a des gens qui sont encore moins populaires. C'est-à-dire quand vous dites Wauquiez, Olivier Faure, excusez-moi, Benoît Hamon, Marine Le Pen. Vous dites il craint pas grand-chose. Alors il y a Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, il est dans son précaré, mais je pense qu'il a atteint son maximum. Donc aujourd'hui. Évidemment, ça doit l'inquiéter, mais politiquement, pas plus que ça. Après, le problème, c'est que les prochaines élections, c'est les européennes, oui. Que c'est des élections qui sont pas du tout mobilisatrices et qui ne vont mobiliser que les gens qui sont contre, et oui. Contre lui en particulier. Et là, ça risque de faire mal.
C'est ça, Emery Doigé.
Oui, c'est effectivement, il y a une dichotomie entre deux choses dans leur communication en ce moment. C'est d'un côté, il y a la télé de la réalité, et de l'autre côté, il y a la télé-réalité. On a vu Emmanuel Macron, avec tout ce que vous citiez tout à l'heure, Emmanuel, faire plein d'interventions. Et là, on était dans la télé-réalité. Il est où? Il fait quoi? Il va manger? Il va pas manger? Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, ouais. Il a recadré un mec. Tiens, il a parlé de pognon. Okay. Et à côté de ça, sans bruit, tout en douceur, tout en nuance, et repris par les Français sans qu'elle fasse de la communication, vous avez Brigitte Macron qui fait de la télé de la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a une communication beaucoup plus smooth, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en profondeur, et c'est ce qui permet peut-être un équilibre.
Alors, vous pensez vraiment à l'influence de Brigitte Macron sur parce que quand on voit des unes de Paris Match, on se dit là, c'est pas smooth du tout.
C'est un couple...
Ouais.
C'est un couple qui vit normalement sa vie de couple, si j'entends ça dire.
Un couple normal, après le président normal.
J'irais pas un couple normal, mais c'est un couple qui est réel. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas eu de couple en sommet de l'État ?
Qui se fait construire une piscine.
Depuis Mitterrand ? Peut-être même si on est...
Chirac ?
Oui, enfin, elle était très effacée. Mais une femme active, c'était Mitterrand.
Pour vous, sur la communication, est-ce que ça peut sauver de tout? Finalement, on le voit que là, c'est pas ce qui marche en premier sur la communication.
J'ai l'impression que pour les présidents de la République, ça n'a jamais marché de trop communiquer. Les présidents qui ont été les plus populaires, c'est ceux qui arrêtaient de communiquer, dont on ne parlait plus, ou qui généralement étaient attaqués de toutes parts, mais par l'extérieur, et donc du coup,
c'était son idée, Emmanuel Macron, au départ, il le disait, je veux pas trop m'exprimer.
Oui, c'est ça, on avait dit, prenez de la hauteur, etc.
Non, il y a dit qu'il voulait pas s'exprimer dans les médias. Après, il a trouvé un autre biais pour s'exprimer en direct.
Il parle beaucoup, pour ça. Oui, Audrey Goutard.
Oui. Et alors, je regardais un peu les sondages, les précédents sondages de mai, notamment, qui avaient été plus pointus et qui, sur le désamour, désamour récent des Français, et je trouvais qu'il était intéressant parce qu'on disait, par exemple, les sympathisants de droite, de leur côté, reprochaient à Macron son manque de fermeté, notamment vis-à-vis des djihadistes, vis-à-vis justement, de toutes les réformes, n'imposait pas assez ces réformes, etc. Et les gens de gauche, ils perdaient des points à gauche aussi, qui lui reprochaient justement d'être trop ferme. Donc là, on voit bien qu'il est dans une situation, encore, on parle de schizophrénie, encore un peu compliquée, où il y a un point d'équilibre difficile à trouver entre la gauche qui le trouve trop de fermeté, notamment sur toutes les réformes sociales, et d'un autre côté, effectivement, la droite qui le trouve moumou sur des formes de...
Mais il prend beaucoup plus à droite aujourd'hui, Emmanuel Foulon.
Bah, il prend beaucoup plus à droite, et on est à l'aube d'un grand changement. Il va devoir s'attaquer au dossier de la sécu sociale, des fonctionnaires, des choses qui vont aussi, et des retraites, c'est des choses qui vont lui faire énormément de tort, et c'est pour ça aussi qu'il est en train d'amener sa nouvelle constitution. Oui. Ça aussi, ça va lui coûter des points, parce que là, il va perdre probablement parmi ses propres électeurs et parmi ses propres élus. Donc, il s'annonce une dizaine de mois assez pénible, alors que je reviens là-dessus, c'est l'aube des élections européennes où ça va lui coûter, ça pourrait... Enfin, à l'Europe, franchement, je viens du Parlement européen, tout le monde l'attend avec grande impatience, mais vraiment comme un messie, et ça peut peut-être le desservir aussi au niveau européen pendant les élections.
On en parlera bien sûr demain. Merci beaucoup Emmanuel Foulon de passer ce soir aux Infos de France Info. Je vous libère pour regardez le foot. Merci beaucoup Audrey Goutard, merci Emery Doliger. La Une de l'Express, Eric Letou cette semaine.
Le portrait d'une autre icône française, Bernard Pivot, sa vie après la télévision et qui est une leçon de vie et de bonheur.
Retrouvez donc dans l'Express.